Luxembourg. Bonjour Luxembourg. Bonjour l'Aveyron. Moyenne Luxembourg, votre rendez-vous hebdomadaire de découverte et de rapprochement du Luxembourg et de l'Aveyron. Une émission du collectif Luxembourg-Aveyron sans frontières. Herzlich willkommen. Bienvenue à tous. Moyen hallo, bonjour, bonsoir à toutes, bienvenue, welcome to Moyen Luxembourg avec et sur CFM Radio à Villefranche-de-Rouergue en Aveyron. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission de la troisième saison de Moyen Luxembourg qui cette année vous propose une heure d'échange éclectique et cosmopolite, à l'image du Luxembourg, de type café-clatch ou bavardage autour d'un café, comme on dit chez nous, au Luxembourg, en Lorraine ou en Allemagne. Une heure pour mieux nous installer dans un véritable échange convivial autour du Luxembourg et de l'Aveyron, avec donc mes invités à mes côtés, mon complice au micro dans le studio de CFM à Villefranche-de-Rouergue, tout nouveau, tout beau, j'ai nommé le grand occitaniste de renom, Christian Pierre. Pierre Bedel, Bunsun, Christian Pierre.
Bunsun, Moyen.
Couchi Anash, Christian Pierre.
Beau plat, merci.
Donc, Couchi Anash.
Je vais bien, merci.
Voilà, Couchi Anash, comment ça va, Christian Pierre? Je vais bien, merci. Avec nous également en studio, à vos côtés, Christian Pierre. Donc, Rosemarie Luce Perdreau. Rosemarie Luce Perdreau, Moyen.
Moyen.
Moyen, bonjour. Vegedet, au qui manière?
Bien, ganz gut.
Ganz gut, en luxembourgeois et alors en créole mauricien.
Qui manière? Moi bien, tout va bien.
Tout va bien. Si. Bienvenue avec nous en tout cas dans le studio de CFM Radio pour Moyen Luxembourg. Rosemarie Luce Perdreau, vous êtes une toute nouvelle arrivante en Aveyron et on l'a peut-être deviné. Vous venez donc de vous installer à Villeneuve d'Aveyron, vous êtes originaire de l'île Maurice, mais vous avez donc aussi la nationalité luxembourgeoise. Vous avez vécu et travaillé au Luxembourg pendant près de 30 ans. Vous allez bientôt fêter 30 ans de séjour luxembourgeois, de séjour très actif au Luxembourg, voire même de séjour de bonheur, puisque vous avez même réussi à vous marier au Luxembourg. Et aujourd'hui, donc vous coulez de jours heureux en fait à Villeneuve d'Aveyron depuis peu, à l'âge de la retraite, et vous avez décidé de créer ici en fait une nouvelle activité qui n'a rien à voir avec l'activité que vous faisiez au Luxembourg. On réserve le suspense et la surprise. Oui. Mais aujourd'hui, en Aveyron, vous développez une activité de type développement personnel en lien avec la sophrologie et la somatothérapie.
Voilà. Entre autres, oui.
Entre autres. Donc, vous nous expliquerez tout ça dans quelques minutes. On va comprendre que vous avez quand même une petite nostalgie vis-à-vis du Luxembourg. Et d'ailleurs, c'est cette nostalgie qui a certainement produit l'effet de notre rencontre, parce qu'on va tout dire et à Christian Pierre et à nos auditeurs. En fait, nous nous sommes rencontrés via ma carte de visite que vous avez trouvée, ou un dépliant Luxembourg-Aveyron sans frontières que vous avez trouvé dans un commerce à Villefranche-de-Rouergue. Oui. Et en fait, rien qu'à la vue du nom Luxembourg, ça fait tilt dans votre tête et ça a produit des étoiles dans vos yeux. Pourquoi ?
Et des papillons dans le ventre.
Et des papillons dans le ventre en plus, voilà. Donc, la totale, en fait.
La totale, oui. C'était un moment particulier puisque j'étais dans cette papeterie pour acheter des étiquettes, pour cacher mon numéro luxembourgeois sur ma carte de visite, avec un petit pincement au cœur. Et au moment de payer, les yeux tombent sur cette carte avec les couleurs de Luxembourg, comme si un message m'était envoyé pour me dire « Non, non, il n'y a rien de terminé, c'est juste une transition. »
Voilà, c'est voilà. Juste une transition, il ne faut surtout pas couper les ponts. Venez avec nous, rejoignez le collectif Luxembourg-Aveyron sans frontières et on va s'en donner à cœur joie pour créer et recréer des ponts entre le Luxembourg et l'Aveyron. Il sera donc question aujourd'hui, vous l'avez entendu, alors du Luxembourg, de langue locale et régionale, mais aussi de terroir, de sophrologie, de somatothérapie. du Cap-Vert, on va aussi parler du Cap-Vert, et de la Saint-Martin et de la Saint-Nicolas, parce que, effectivement, nous approchons en fait de ces fameuses fêtes, on va dire aujourd'hui laïques, mais qui ont quand même une origine religieuse.
Elles ont plutôt une origine païenne, et elles ont été christianisées, bien sûr, par la suite.
Voilà, donc on rentrera dans le détail du détail alors, en cours de cette émission, mais avant toute chose, voici la petite minute linguistique bilingue luxembourgeois occitan. Vous vous prêtez au jeu, Marie-Luce, on vous appelle Marie-Luce, Luce ou Rosemary-Luce, comment préférez-vous que je vous appelle là en l'occurrence?
Luce, très bien.
Luce, ok. Alors vous avez bien accepté de vous prêter au jeu d'une présentation en luxembourgeois, présentation que je demanderai aussi à Christian Pierre de bien vouloir réaliser pour lui-même. Pour vous-même, Christian Pierre, en occitan, bien sûr, pas en luxembourgeois. Vous avez... Il me regarde d'un œil méfiant.
Mais de quelle présentation s'agit-il là? J'ai pas suivi.
Alors, Luce va se présenter en luxembourgeois. Alors, c'est-à-dire une présentation basique, comme on apprend à se présenter quand on fait une initiation, en fait, dans une langue étrangère. Donc, je m'appelle, j'ai tel âge.
Ah, ok, d'accord.
Voilà, je viens de là, j'habite ici, etc.
Ouais, d'accord.
Voilà, donc, Luce, on vous écoute pour cette initiation au luxembourgeois. Alors, qui êtes-vous?
Mein Name ist Rosemary Luce Perdreau. Eine Schande der Mauritius-Inselgebühr. Ich bin 55 Jahre alt.
Où habitez-vous?
Ich wohne à Villeneuve, à Lombrego.
Combien de temps avez-vous vécu et travaillé au Luxembourg?
25 Jahre.
Près de 30 ans, donc. Et quel était votre métier, donc, au Luxembourg? Qu'avez-vous fait au Luxembourg pendant près de 30 ans?
J'ai travaillé dans le secteur financier.
Vous avez travaillé dans le secteur financier, mais pas que, puisque vous avez pleinement vécu en fait le Luxembourg dans tout son côté cosmopolite et ouvert aussi sur le monde.
Voilà, je vais repasser au français parce que ma pratique et mon vocabulaire luxembourgeois ne suivront pas.
Oui, mais vous avez quand même décidé de solliciter la nationalité luxembourgeoise, ce que vous avez obtenu. Donc vous êtes mauricienne et luxembourgeoise.
Franco-luxembourgeoise.
Ah oui. Et donc, pour acquérir donc, la nationalité luxembourgeoise, vous avez dû passer ces fameux tests de culture et de langue. Et donc, vous avez quel niveau en luxembourgeois, ou vous aviez, au moment des tests, quel niveau en luxembourgeois?
Alors, la législation avait changé par rapport au temps de séjour au Luxembourg. Et lorsque j'ai fait ma demande de nationalité luxembourgeoise, j'avais plus de 20 ans de séjour au Luxembourg et il était question d'assister à 24 heures de cours de luxembourgeois sans examen.
Ah oui?
Oui, c'était basé sur une modification de la loi qui a tenu compte que les communautés qui sont arrivées il y a plus de 20 ans étaient des gens qui n'avaient parfois pas, enfin pas de ma génération, mais de la génération qui aurait pu être celle de mes parents, n'avaient pas pu apprendre le luxembourgeois, donc on leur a donné au bout de 20 ans la nationalité luxembourgeoise avec une obligation d'assister à 24 heures de cours.
D'accord, donc vous ne savez pas à quel niveau vous aviez acquis à ce moment-là. Au moment où vous viviez au Luxembourg, vous parliez majoritairement quelle langue en fait?
Ma langue de travail était l'anglais.
Ah, d'accord. Et donc, initialement, vous parliez donc
le français.
Le français, oui. Et puis vous êtes bilingue anglais quand même.
Je suis
vous venez de l'île
bilingue en anglais et en français.
D'accord.
C'est ce qui fait qu'au Luxembourg, on a beaucoup de mal à pratiquer le luxembourgeois.
Oui.
Parce que souvent, la langue de travail dans le secteur financier, c'est l'anglais. Le seul moment où on peut parler le luxembourgeois, c'est quand on va faire ses courses. Mais là, à la caisse, il faut aller vite. Donc, quand on cherche les mots en luxembourgeois, la personne qui est à la caisse
on n'a pas le temps de payer. On n'a pas le temps de parler.
Voilà, on a le temps de payer, mais on n'a pas le temps de pratiquer le luxembourgeois.
Oui, c'est vrai. Il faut trouver des groupes spécifiques avec lesquels vous pouvez parler le luxembourgeois.
Oui.
Alors, je dirais presque idem en occitan. Et là, nous tendons l'oreille, parce que ni vous, je crois savoir, ni moi ne pratiquons encore l'occitan. Mais bon, on est tout de suite. Et Christian Pierre, on a bien envie de vous entendre vous présenter en occitan avec vos mots. Christian Pierre.
Bonjour, Tornomai. Je suis Christian Pierre de Vedel. Je suis nascu à Natsac, de la Bailou, que j'ai mis là, c'est comme au Villonovo. Pas une bastide, ni mai Villonovo, pas complètement. Mais bon, je suis du pays qui appelle de la bastide. Vila Franca és un bastió d'obert a Dieira i poi hi ha moltes vilatges de l'Almezzano del país que reverto les bastides. I poi, così dire, ara fa 67 anni che sono nascut a Natsac. E un bravo partito de ma vita quand eri picciù l'hai passato a Toulouse per l'escolarità a poi mai che mai hai causato de biori in lo paese un terri nascut a mie secoli mai che mai e fu partito di una generazione ma je vais passer au français pour vous poser la question le créole pour vous vous le maîtrisez, vous le connaissez, c'est une langue dont vous avez eu l'usage, que vous avez entendu dans votre famille.
Alors, c'est intéressant aussi par rapport à mon expérience dans les voyages, parce que dans beaucoup de pays qui ont été colonisés, le créole était interdit de pratiquer à la maison ou dans la vie de tous les jours. À l'île Maurice, quand j'étais petite, j'entendais parler le créole, parce que quand les adultes ne voulaient pas qu'on comprenne ce qu'ils disent, ils parlaient en créole. Et c'est quand j'étais adulte que j'ai pu pratiquer le créole en retournant à l'île Maurice adulte.
Ah, très bien, parce que bon, on est dans la même situation. Hein, oui. L'occitan était interdit à l'école à nos parents. Mon père a appris le français à l'école. Et c'est donc, ils se sont efforcés à nous parler français dès la petite enfance, dès la naissance. Même si, entre adultes, ils continuaient à utiliser l'occitan dans notre environnement, c'était une langue qui était présente. Mais c'est vrai que moi, je me suis senti franco-français jusqu'à 20 ans. Bon, après tout, pouvait avoir, on appelait ça le patois, bon, ben, c'était un argot, c'était quelque chose comme ça. Et donc, quand j'ai fait ma démarche de retour au pays, j'avais déjà pris conscience qu'en fait, ça avait été une langue historique très importante, qui était celle de Aliénor d'Aquitaine, de Richard Cœur de Lion, de tout ça, bon, enfin bref, et d'un prix Nobel de littérature en 1904, et que tout ça, on l'avait complètement zappé, oublié, étouffé, et que tous les noms, Bilonovo, etc., qu'on avait dans le pays, Bilofranco, on les a francisés, mais c'était Bilonovo, en occitan, Natsac, pour moi. Bon, ben voilà, la langue avait été là, et dans l'écrit public, dans l'écrit officiel, dans la littérature, omniprésente, et on était complètement ignare par rapport à ça, et surtout, on avait cette vision pervertie de dire, ben non, c'est pas une langue, voyons, quand même, bon. Et on était les premiers agents destructeurs, c'était de l'autodestruction. Et souvent, on disait que les enseignants étaient les hussards de la République, les hussards noirs de la République. Moi, je dis que c'était plutôt les harkis de la République, parce que ils se sont battus contre, le recrutement était départemental, était local, ils étaient dans des milieux occitanophones, et ils étaient conditionnés pour détruire l'usage de cette langue. Et c'est assez intéressant comme situation.
Vous l'entendez, Lucin, Christian-Pierre Vedel est un grand passionné
à fond,
expert de la culture et de la langue occitane. Et Christian-Pierre, vous êtes aussi ethnologue. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire ethnologue? Parce que vous vous intéressez quand même à toutes les cultures.
Non, enfin, je ne suis pas ni ethnologue, ni ethnographe. J'ai été amené à travailler en relation étroite avec justement ce patrimoine dont on avait été coupé complètement, et avec la génération de mes parents qui, eux, ont vécu cette culture paysanne, rurale, mais il y avait une culture urbaine partout. Donc, de ce point de vue, s'intéresser aux cultures d'une population, bon, ben, c'est un rapport peut-être avec l'ethnologie, avec l'ethnographie, mais je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas une formation dans ce domaine.
Mais est-ce que, alors, l'étude approfondie de votre propre culture, de votre propre langue d'origine, mène à toutes les autres? Parce que c'est l'impression qu'on a quand on vous entend, vous êtes ouvert sur toutes les autres cultures.
Ah ben, absolument. Et je suis sûr que dans l'échange, si on rentrait vraiment dans le détail, on s'apercevrait que de manière inconsciemment, en fait, on est porteur des mêmes dynamiques, des mêmes choses. Et c'est précisément, d'ailleurs, la période dans laquelle nous nous trouvons, là, en novembre, on a vraiment des éléments qui permettent d'illustrer le fait. Et en particulier, ici, dans notre région, il y a 30 ans, personne n'avait jamais entendu parler d'Halloween. Maintenant, c'est devenu un must incontournable, pour employer un mot d'ailleurs, qui correspond. Et vraiment, c'est intégré, quoi. Bon, nos petits-enfants diront à leurs petits-enfants, voilà, nous, moi, mais mon grand-père déjà était, bon, c'était une tradition en réalité. Donc, c'est en creusant, en étant sur le terrain, que je me suis aperçu qu'en fait, cette tradition qui est d'origine celtique, qui a été christianisée, a des attributs que l'on retrouve dans la même période, chez nous, autour de la Toussaint et du Jour des Morts, et voilà, qui coïncident avec les descriptions qu'on a de ce qui se passait au temps des Celtes, où cela donnait lieu au partage de châtaignes, de noix, etc. À ce moment-là, cette période particulière du temps du souvenir des morts. Et curieusement, à quelques jours de distance, c'est la Saint-Martin.
Si nous revenons maintenant à votre côté, alors... ethnologue, ouais. Et à votre intérêt approfondi pour la culture occitane et donc à toutes les cultures, ça reviendrait à dire qu'un rapprochement entre les cultures n'est jamais incongru. Que pensez-vous, par exemple, Luce, qu'avez-vous pensé quand vous avez découvert notre projet Luxembourg-Aveyron sans frontières et cette émission qui, dans la vocation, est de créer des ponts entre Luxembourg et Aveyron qui, a priori, d'après certains Aveyronnais, en tout cas au début du projet, n'ont strictement rien à voir et on sont de cultures différentes.
Ce qui était intéressant pour moi, parce que j'ai voyagé une bonne partie de ma vie avant d'arriver au Luxembourg, et j'ai mis 3 ans, je pense, avant de jeter l'ancre, comme on peut dire. Je venais de la mer aussi, puisque j'étais dans une activité de loisirs sur des voiliers à ce moment-là.
Aux Seychelles, je crois.
Aux Seychelles, oui. Ce sont les Seychelles qui m'ont amené à Luxembourg.
Mm-hmm. C'est là que vous avez rencontré des Luxembourgeois.
Voilà. Un groupe qui venait faire de la plongée aux Seychelles au Nouvel An, ils m'ont invité à venir les voir. Je suis venue pour 15 jours. Je suis restée jusqu'en 2017 pour aller rejoindre mon mari. Et en fait, en Aveyron, je réalise que le côté multiculturel, quelque part, c'est ça mon énergie. Et là, je parle avec les mots qui concernent mes pratiques. Mais c'est important, quand on parle tout à l'heure de la référence aux Celtes, l'énergie de l'Aveyron est particulière. Et cette énergie crée des rencontres très facilement. Et oui. La meilleure, pour moi, le bonheur, si je peux l'appeler ainsi, par rapport à la couleur, et les formes. L'Aveyron, quand je me retournais autour de là où j'habitais, quand je suis arrivée dans la région de Conques, en Rergue, c'était rond partout. Il y avait des rondeurs partout. On avait l'impression que la terre faisait le gros dos partout où on regardait. Et maintenant que je suis un petit peu plus loin, à 70 km de Conques en Rergue, le paysage a un peu changé. Mais les gens sont toujours aussi chaleureux. Le contact est très facile. La disponibilité de cœur et dans le temps. Les gens ont vraiment été très disponibles pour rendre service, aider. On est dans la compassion, c'est-à-dire quoi ? C'est faire en sorte que l'autre soit bien.
Oui, effectivement. Et puis, il y a en Aveyron aussi ce côté environnemental, la nature hyper dominante, le patrimoine bâti avec ces vieilles pierres qui nous donnent l'impression de nous reconnecter en fait à des racines, peut-être même à nos racines. Et donc ça a rappelé pour vous l'importance quand même du Luxembourg.
Tout à fait, parce que lorsque je suis arrivée au Luxembourg, les premiers temps, je dirais les premiers jours, ce n'était que la ville. J'étais au centre-ville et je n'avais vu que ces banques, ces immeubles, de style ancien, de style moderne, avec des vitres partout. Et puis, je regardais ça, je me suis dit, j'ai besoin de vert. Je dis toujours, si je n'ai pas le bleu de la mer autour de moi, j'ai besoin du vert. Et là, un jour, je découvre qu'en partant à pied, en sortant du bureau, un quart d'heure, en me retrouvant dans le vieux Luxembourg, le Rolling Ground, j'étais dans la nature, il y avait des petits jardins partout. qui était cultivée par les Portugais, puisque c'était la première communauté la plus importante au Luxembourg. Oui. Ça doit l'être toujours, d'ailleurs. Oui. Et le fait que le verre soit si proche, si accessible, je suis convaincue que c'est ce qui m'a gardée au Luxembourg, au niveau de l'environnement. C'était très important pour moi. Je changeais de vie pour des raisons diverses. Et ce verre me nourrissait quelque part. Et c'est ce que j'ai retrouvé ici. C'est fantastique. C'est fabuleux. Ouais. C'est magique.
C'est magique. C'est magique, d'autant que ça recrée des ponts en fait, nécessaires avec une culture complémentaire en fait, au Luxembourg. Hein. Il y a non seulement voilà, ce pour quoi on vibre ici en Aveyron, mais ce de quoi on est animé après une expérience de 30 ans au Luxembourg. Alors, votre bonheur, vous l'avez trouvé, vous allez encore nous en parler, mais vous nous avez suggéré aussi d'écouter la version du bonheur de Christophe Maé dans son tube, je crois, des années 2016, dans un album qui s'appelait, vous l'avez encore en tête, le nom de l'album de Christophe Maé, dont est extraite cette chanson, ça s'appelait Attrape-rêve, et de 2016. On écoute Christophe Maé, votre choix musical du jour, donc.
Merci beaucoup.
Dans Il est où le bonheur, Christophe Maé.
Il est où le bonheur, il est où, il est où. Il est où le bonheur, il est où, il est où. J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où, il est où. Il est où le bonheur, il est où, il est où. Il est là le bonheur, il est là, il est là. Il est là le bonheur, il est là, il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors, je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où, il est où. Il est où le bonheur, il est où, il est où. Il est là le bonheur, il est là, il est là. Il est là le bonheur, il est là, il est là. C'est une bougie le bonheur, ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut, tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non, il fait pas de bruit, non il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. il est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là.
Merci pour ce moment de, comment dire, de méditation
de
dansante,
soleil.
De soleil, de rythme. Christian Pierre était tout admiratif et ne
ouais.
vous a pas
oui,
quitté
oui,
des yeux tout au long de cette chanson. Il est où le bonheur ? Il est là. Il est con. Le bonheur aussi, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là, justement. Alors pour vous, Rosemary, pour vous aussi, Christian Pierre, justement, il est où le bonheur en Aveyron et au Luxembourg ?
Je dirais, c'est quand on peut marcher et tout d'un coup sourire sans raison, juste parce qu'on réalise qu'autour de nous, c'est bon, c'est beau, et il n'y a pas de raison matérielle extérieure, c'est juste la nature et peut-être... un bruit, une noix qui tombe, un écureuil dans un arbre à ce moment-là, un oiseau, le chat qui court après le lapin, voilà, c'est tout.
C'est votre bonheur, où que vous soyez, en Aveyron, au Luxembourg,
oui.
à l'île Maurice ou au Cap-Vert. Et Christian Pierre, alors votre bonheur à vous, ici, ou à Najac en particulier ?
Honnêtement, je n'ai pas de réponse parce que c'est très conjoncturel. Je crois que bon, passe par tous les états d'âme, partout. Il y a des moments, je suis d'accord avec, quand on est en harmonie avec ce qui nous entoure, et notamment la nature, quand on est sensible quoi, à tous ces signes, etc., on est vraiment dans une situation de bonheur. J'avais un discours avec quelqu'un près de chez moi qui passait, on parlait de ça, et je dis c'est conjoncturel, pourquoi ? Parce que j'ai la chance en ce moment de, bon d'abord quand on avance en âge, de se dire, tiens, je vois, j'entends, d'avoir ces sens, même s'ils sont altérés, ils sont encore fonctionnels. Et alors, on essaie d'en profiter, quoi, de se dire, vraiment, on a cette chance-là, on ne sait pas si ça va durer longtemps. Donc, c'est aussi une disposition et de faire abstraction des tracas que tout le monde a dans la vie. Et à ce moment-là, moi, je me sens bien, voilà, dans cet état d'esprit, et d'être disponible justement dans tout ce qu'il y a de positif autour de nous, et malgré tout ce qu'il y a de catastrophique, quoi. Voilà. Et ça, c'est cette disponibilité par rapport, voilà, comme vous le dites, la sensibilité à tout ce qu'il y a de bien. On pourrait dire peut-être égoïste ou égocentré, mais c'est ça. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, nous sommes, chacun de nous est un être, et cet être-là, il aspire à être bien, quoi. Voilà, bon, on n'est pas maso, quoi. Et c'est important. Et c'est vrai que parfois, il faut forcer la main au bonheur, quoi. Il faut aller le chercher, quoi.
C'est le bonheur que vous êtes venu chercher en Aveyron. Alors, comment et pourquoi avez-vous atterri ici, en Aveyron, en Ouest Aveyron, à Villeneuve d'Aveyron ? Dans quelles conditions ? Alors, dans quel contexte ?
Ah, c'est un changement de vie lié aussi à l'épisode Covid. Et ouais. Surtout, nous vivions à l'époque, j'avais quitté Luxembourg pour aller rejoindre mon mari. Nous nous sommes mariés au Luxembourg en 2018, en juin.
Pour aller le rejoindre ?
Au Cap-Vert.
Au Cap-Vert ?
Oui.
Voilà, parce qu'il
s'agit
de la question de Cap-Vert. Oui.
Le Cap-Vert étant lié au Luxembourg. Puisque
oui. Et à vos activités aussi
tout
au Luxembourg.
Oui. Mon histoire avec le Cap-Vert a commencé au Luxembourg, puisque c'est une communauté qui à l'époque représentait plus de 10 000 personnes, aujourd'hui beaucoup plus. Et le Luxembourg avait classé le Cap-Vert sur la liste des pays cibles pour la coopération, les pays qui sont aidés. Et c'est comme ça que mon histoire avec le Cap-Vert a commencé.
Alors qu'avant cela, vous n'aviez pas de relation avec le Cap-Vert ?
Non, pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. J'avais juste entendu chanter Césaria Évora un jour en 82. J'étais en Corse, dans mon lit. Et de l'avoir entendu chanter, j'ai eu envie de connaître le Cap-Vert. C'était pas un rêve, mais un jour, un voyage que j'aurais voulu faire. Et puis ce jour est arrivé par une rencontre au Luxembourg. Et ma vie, en fait, on dira, peut-être qu'on calcule tout avec la tête. J'avais prévu, j'avais projeté. Non, c'est notre intuition. Et puis, sans doute que c'est comme ça que les choses devaient être.
Et elle vous a amené à créer une association d'aide au Cap-Vert au Luxembourg.
J'ai créé une association avec ma meilleure amie qui s'appelle Céleste Montero, qui était à l'époque la présidente de la Fédération des associations capverdiennes au Luxembourg. Et j'ai connu le Cap-Vert en 2005 avec elle. On est allé 3 semaines et j'ai été complètement passionnée, comme je me suis passionnée pour Césaria, je me suis passionnée pour le Cap-Vert. Et
qu'est-ce que vous avez développé alors comme activité pour servir le Cap-Vert, pour
aller aider le Cap-Vert ? C'est une association qui s'appelle encore, puisqu'elle existe encore, CVUD, Cap-Vert Espoir et Développement. C'était pour créer des projets dans le secteur de l'éducation et aussi des activités qu'on appelle génératrices de revenus pour les femmes, parce que souvent les femmes sont chefs de famille, sont seules, elles ont des enfants, les maris sont partis et elles doivent trouver un moyen de faire vivre leur famille. Donc en faisant partie du secteur financier, j'ai travaillé pendant pas mal d'années où je me suis rendu compte un jour que je diffusais le lendemain ce que j'avais fait dans l'urgence la veille. Et là, tout d'un coup, avec ces projets d'association, j'ai réalisé que j'avais des actions concrètes qui me rendaient heureuse et qui rendaient les gens heureux. Le bonheur, pour moi, c'était ça. Je ne l'ai pas cherché. C'est simplement, je pense, en se laissant guider par son intuition, pour faire des choses qui ont un sens, surtout, un sens pour la vie. Pour la vie de tous les jours, la vie sur le terrain, qui nous procure cette joie intérieure qui fait partie de notre bonheur.
Et alors au Cap-Vert, qu'est-ce que vous avez apporté du Cap-Vert avec vous et que vous gardez en vous ?
La puissance des éléments. Et je pense que c'est aussi ce que je retrouve quelque part ici en Aveyron, dans la nature. C'est une espèce de force tranquille qui ancre. Et dans ma pratique, c'est ce que j'amène les gens à faire. S'enraciner, s'ancrer. Parce que nous sommes trop dans la tête, en médecine chinoise, que je pratique aussi. Il y a le yin et le yang. Souvent, on est complètement yang, c'est-à-dire qu'on est tout vers le haut, et on n'est plus du tout connecté à notre corps, et en l'occurrence à la terre.
Et donc, vous pensez que on est beaucoup plus connecté au Cap-Vert ?
Ah, complètement.
Oui.
Et pour revenir aux traditions et tout ce qui tourne autour de cette période de novembre, les rites et les traditions sont très ancrées, très présentes. Et les gens, même quand ils ont vécu pendant 30 ou 40 ans en Europe, quand ils rentrent au Cap-Vert, on ne dirait pas qu'ils ont vécu en Europe. C'est vraiment comme la nature qui reprend ses droits quand l'homme quitte un espace. À un moment, quelques années après, on ne sait même plus que l'homme est passé là. La nature a repris ses droits. Et ça, c'est la force des Cap-Verdiens aussi, c'est de garder ce lien, cette connexion avec leurs racines et leur pays. C'est très fort.
Et alors, on rappelle, le Cap-Vert, en fait, ce n'est pas un pays.
C'est un archipel.
Un archipel, oui.
Voilà, de plus ou moins 12 îles, dont 9 habitées. Donc, à l'époque où je me suis intéressée, enfin, où j'ai créé l'association, il y avait autant de population au Luxembourg qu'au Cap-Vert.
Ah oui,
plus
oui,
ou moins sur la même dimension, enfin, toutes les îles regroupées.
Oui, alors au Luxembourg, aujourd'hui, on est à 650 000,
à l'époque, je crois que c'était 450 ou 480 000. C'était okay. En 2005 ou 2006. Et c'était plus ou moins la même au Cap-Vert.
Et là, on est au large de l'Afrique, donc Afrique de l'Ouest.
On est au large du Sénégal. Oui. À 500 kilomètres au large du Sénégal, et c'est un archipel qui a été portugais. Donc la langue qui est pratiquée, c'est le portugais et le créole dans la rue.
Le portugais, on revient aussi à peut-être une ressemblance avec le Luxembourg.
Beaucoup, voilà. oui, beaucoup, beaucoup. Et l'histoire du Cap-Vert avec le Luxembourg, justement, c'est ça, c'est qu'à une époque... le Portugal, donc première communauté de population étrangère qui venait pour travailler dans la construction surtout. Et un jour, les Luxembourgeois vont arriver des Portugais noirs. Et ils se sont posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et donc ces Portugais noirs, c'était les Cap-Verdiens. Étant donné que le Cap-Vert était portugais, les Cap-Verdiens qui immigraient au Portugal, arrivaient au Luxembourg pour travailler aussi dans le secteur du bâtiment et aussi dans le football. Puisque c'était des très très bons, ce sont de très bons joueurs de football, des sportifs. Et voilà le lien entre le Cap-Vert, le Portugal et le Luxembourg.
Le Luxembourg, oui. Vous y avez passé dans 30 ans, au Luxembourg, on dit que c'était un petit pays, comme le Cap-Vert d'ailleurs. Oui. C'est Césaria Evora qui a fait une chanson décrivant
petit pays.
Voilà, son petit pays, le Cap-Vert. On va l'écouter d'ailleurs dans quelques minutes. Effectivement, le Luxembourg étant un petit pays, 650 000 habitants, et en y ayant vécu 30 ans, Est-ce que vous avez fait le tour du pays? Est-ce qu'il reste des choses que vous avez envie encore d'aller chercher, peut-être dans la culture luxembourgeoise ou, je ne sais pas, dans la scène artistique luxembourgeoise? Qu'est-ce que vous avez réussi à capter et qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à capter? Parce que, aussi, c'est un petit pays hyper cosmopolite dont la moitié des habitants sont de 162 nationalités différentes.
D'abord, quand je suis arrivée, je ne savais pas que j'allais rester autant de temps. Je dis souvent, personne ne rêve de vivre au Luxembourg. Mais curieusement, tous les gens qui sont arrivés pour un week-end, une semaine, 15 jours, un mois, sont restés 20, 30, 40, 50 ans, ont créé des familles, ont eu des enfants. Et pour moi, c'était un peu comme un îlot au milieu de l'Europe, avec toutes ces cultures qui se croisent et se rencontrent. Et curieusement, on s'est déjà retrouvés à 15, 18 à table, et la langue de communication était l'anglais. Et on venait tous de pays différents. Donc ça me parlait beaucoup. Et puis, comme les insulaires voyagent, forcément, il faut agrandir les limites de l'île. Luxembourg, avec sa superficie et ses endroits... un pays où on parle des trois frontières, c'est la première fois que j'entendais ça.
France, Allemagne, Luxembourg.
Voilà, j'ai connu Luxembourg avec des frontières vraies, physiques. Et puis j'ai connu Luxembourg sans frontières.
Ah oui, quand vous dites ça, en fait, vous parlez des fameux accords de Schengen qui ont été signés
tout à fait
en 1985. Oui, avant les accords de Schengen, c'était donc différent de vivre au Luxembourg.
Alors, c'était sans doute différent pour les gens qui devaient traverser la frontière tous les jours. Moi, je la traversais quand j'allais voir ma famille. Quand je rentrais en France, enfin, j'allais en France, oui. Puisque un jour, j'ai réalisé que lorsque j'arrivais à la frontière entre la France et le Luxembourg, je passais la frontière, je fais « Oh, je suis enfin chez moi », qui était le Luxembourg. Ça m'a fait drôle dans ma tête, parce que à force de voyager, quand on me dit « Mais c'est où chez toi ?» Eh bien, chez moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'endroit où je suis, là, maintenant, dans l'instant présent. Je l'ai vécu à un moment où j'étais au Cap-Vert, où j'avais décidé de rester un certain temps. Et j'étais sur la terrasse de mon appartement, je regardais autour de moi, je me disais, mais maintenant, c'est ici chez toi.
Oui, c'est pour savoir, est-ce que vous avez toujours des attaches à l'île Maurice?
Les cousins sont très éloignés, je n'ai pas grandi, on ne s'est pas vus. Ah. Donc, avec la famille, tous mes proches, enfin ma grand-mère, mes oncles, les gens qui ont été dans mon environnement familial quand j'étais petite, ils sont déjà maintenant tous partis. Donc je suis effectivement née à l'île Maurice, j'en suis partie, j'avais 12 ans. Mais avant ça, j'avais déjà voyagé à l'âge de 6 ans pour venir en Europe. 28 jours de bateau, puisque c'était les paquebots à l'époque, de la compagnie des messageries maritimes, avec la découverte des côtes africaines, traverser le canal de Suez, passer au large de la botte italienne, ensuite Marseille. Avec toutes les odeurs, les bruits, pour un enfant de 5-6 ans, c'est fantastique.
Ah ouais.
Et le Cap-Vert, Christian-Pierre, ça vous parle ?
Ben oui, parce que j'ai vu des reportages et c'est vrai que c'est assez fascinant. Après, j'ai voyagé aussi. Je me suis rendu compte que quand même, ici, c'était mon biotope. Je ne suis pas tellement à l'aise avec le climat intertropical, avec la chaleur, les moustiques. C'est idiot, oui, parce que bon, on a beaucoup de moustiques maintenant ici aussi, ça arrive. Et puis,
et même
dans le nord, en Suède, en Scandinavie, tout ça, dans les forêts. Bon, mais ici, il n'y en a pas trop. C'est le pays du châtaignier, je ne sais pas si c'est ça qui les tient à l'écart. J'aime bien ce confort, je l'apprécie. Et puis finalement aussi le changement de saison, les hivers, l'automne, l'été, je trouve ça pas désagréable du tout. Bon, je crois que le fait d'être né, j'ai souvent une anecdote qui me vient à l'esprit. Dans ma famille, il y a une jeune femme qui est venue, assez jeune quand même, elle était née en Patagonie. Et ce qui lui manque le plus dans la vie, c'est le vent de la Patagonie.
Ah oui.
C'est ça ce que je veux dire, un biotope. Quand on a vécu une partie de sa vie dans un certain environnement, et puis qu'on va se balader, moi j'ai trouvé les paysages du Pacifique qui étaient magnifiques, même la Nouvelle-Zélande, la Polynésie bien sûr, tout ça, plein d'endroits extraordinaires, même l'Afrique du Nord, dans la proximité. J'ai vécu en Allemagne, j'adore l'Allemagne, enfin bref, je trouve que partout, il y a à la fois le paysage, mais aussi la culture.
La culture,
donc,
oui.
Tout me plaît là, franchement, je crois que... Bon, il y aura toujours des questions, quoi. Mais...
Et Cesaria Evora, dont parlait tout à l'heure Luce, est-ce que vous connaissez l'artiste Cesaria Evora, la diva aux pieds nus, comme on l'appelle?
Alors, je vais vous faire un aveu. J'ai décroché. Tout à l'heure, bon, vous avez parlé de Christophe Maé. Bon, j'ai vu, j'ai entendu un zapin sur la télé, etc. et tout. D'ailleurs, je me suis toujours dit quel est le rapport entre Christophe Maé et Stromae. Il y a des choses intrigantes. Mais voilà, par exemple, là, l'artiste, je l'ai connu. Par contre, j'ai vu, j'ai entendu des fois des artistes du Cap-Vert ou d'ailleurs. Mais je crois que mon répertoire culturel en musique tout ça, ça s'est pratiquement arrêté avec le reggae, quoi, avec voilà, bon.
Dans les années quoi, 70.
Voilà, moi c'était Otis Redding, c'était Dylan, c'était bon voilà.
Okay. Intéressant.
Vous voyez, mais oui. Mais après, j'ai consommé comme tout le monde, quoi, de la culture française ou autre, mais
je
pas au point de les avoir intégrés, quoi.
Oui, alors je vous propose d'écouter Cesaria Evora justement dans ce morceau Petit Pays, où elle raconte, elle sublime son pays. Cesaria Evora, qu'on appelait donc la diva aux pieds nus, elle est décédée en 2011, et c'est la grande prêtresse d'un genre musical très populaire au Cap-Vert, c'est le morna, c'est bien ça, Luce?
La morna, oui.
La morna, oui. Alors on l'écoute tout de suite, Cesaria Evora.
Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade. Saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que canta brilhar e na mar boia uma areia que canta molhar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
petit clin d'œil au Cap-Vert, donc avec la grande Césaria Évora, la diva aux pieds nus, dont la voix donc, et la vie ont permis de rendre populaire dans le monde entier ce genre musical et mélancolique, la Morna, avec une déclinaison plus rapide qui s'appelle en fait la Coladera. Vous connaissez ?
Coladera. Oui.
Ouais, donc c'est un peu plus dansant et plus rythmé.
Et le batuk et funana, qui sont des danses typiques du Cap-Vert par les femmes, avec des instruments qui sont comme des tambours de peau tendue.
Ah oui, et sur lesquels on danse.
Et sur lesquels on danse.
Ouais. Les femmes en particulier, donc, et exclusivement les femmes.
Les femmes en particulier, le batucadère, oui, ce sont surtout les femmes. Les batucadères, ce sont des femmes.
D'accord, ça se rapporte à la batucada ? On connaît ça, est-ce que ça a à voir ?
Le batouk, je ne sais pas trop, mais ça prend ses origines aussi dans l'ère de l'esclavage.
Ah oui, comme beaucoup de musique en fait créole.
Oui.
En particulier. Donc, vous le disiez tout à l'heure, Christian, Pierre, votre biotope terreau, en fait, hein, culturel, c'est donc tout ce qui constitue la culture donc, de l'endroit où vous vivez, où vous êtes né. Mais la culture, c'est quoi la culture ?
Car chaque homme porte à lui la forme entière de l'humaine condition. Donc, il y a chacun de nous toutes les possibilités, quoi. Donc, je peux me sentir bien n'importe où dans le monde, avoir des moments d'exaltation n'importe où dans le monde. Mais bon, moi, je suis né dans un moulin au bord de l'eau. Le bruit de l'eau, l'ambiance du moulin, le côté intime, creusé, tout ça, ça me touche plus que mon épouse, qui est comme moi, une rouergate du pic, mais qui est née sur une hauteur, et elle, c'est les espaces, etc.
Vous avez connu, Luce, la Saint-Nicolas ou la Saint-Martin au Luxembourg ?
La Saint-Nicolas et la fête d'Halloween, hein, je ne connaissais pas ça avant. C'est vraiment au Luxembourg et je pense dans l'Est de la France.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant 30 ans à part travailler au Luxembourg ? Quelles étaient, à part travailler et vous engager pour le Cap-Vert ? Attendez, c'est quand même très important. Non, mais je pense en termes de sorties de loisirs, de sorties touristiques, de sorties culturelles. Dites-nous un peu ce que vous en gardez, en fait.
Oui, beaucoup de choses et particulièrement ce qui était pour moi très important, c'est le fait que tout était accessible à portée de bras, si je peux dire. On n'avait pas besoin de faire des kilomètres pour aller voir un concert. Il y a quand même eu beaucoup d'artistes internationaux que j'ai pu voir au Luxembourg, que je ne serais pas allé voir en France parce qu'il faut aller à l'autre bout de la France. Ça, c'était pour moi la richesse de vivre dans un pays à dimension, je dirais, humaine, dans le sens où à portée de mes roues de voiture, pas loin, je pouvais aller faire des activités qui étaient quand même... ça doit faire partie de rêve, hein, quand on sait qu'il y a des gens au Cap-Vert, par exemple, qui sont jamais sortis de leur village. Donc, ça, c'était en termes de musique. L'année où je suis arrivée au Luxembourg... Luxembourg était ville européenne de la culture et il y avait des sculptures de Nikita Saint-Phal partout.
Ah oui,
là, au centre
en
de la ville.
1914.
Et il y avait des couleurs partout.
Oui.
Et ça m'avait. Waouh! Au milieu de toutes ces constructions, parce qu'il y avait encore à l'époque des immeubles qui faisaient partie de l'histoire de Luxembourg, qu'on a détruit pour remplacer par du verre. Et ces sculptures de Nikita Saint-Phal au milieu des places, des rues, avec toutes ces couleurs. Et curieusement, je suis arrivée une année où il a fait beau dès le printemps, puisque je suis arrivée avec le printemps. Et c'était magnifique. Je pense que ça a contribué, en plus du vert, de la nature, à me garder au Luxembourg. Il y avait de la musique partout. C'était important pour moi. J'ai fait beaucoup de danses latino, la salsa notamment, tango argentin auquel j'ai touché un moment. Donc tout ça était pour moi là. Je n'avais qu'à choisir et je pouvais me servir et faire ce que j'avais envie de faire sans que ça me coûte une fortune. Et aussi, je reviens à l'association, que ce soit les artistes ou les personnages politiques, Tout le monde est très accessible aussi au Luxembourg.
C'est ce qui caractérise vraiment ce pays,
oui.
Justement.
Oui.
Voilà, la culture est accessible, toutes les infrastructures sont accessibles et les gens, aussi haut placés soient-ils, enfin, dans une certaine mesure en tout cas, sont accessibles et se connaissent aussi et se fréquentent.
Oui. Et en termes de nature, pour les gens qui ont besoin d'avoir ce contact, cette connexion avec la nature, il y a une richesse extraordinaire. C'est un petit peu comme la Dordogne, où à chaque virage, il y a un château de Belle au Bois Dormant. Il y a ce qu'on appelle la vallée des sept châteaux. À chaque vallée, on découvre sur un
virage,
pic.
Ouais, ou sur un
pic. C'est magnifique. Et en plus, des châteaux qui sont restés tels quels. Si on voyait sortir Godefroy de Montmirail ou Jacouille à la Fripouille, on ne serait pas étonné. Ouais.
Est-ce que vous connaissez la Moselle luxembourgeoise,
oui,
et Schengen en particulier? Parce que vous savez qu'en Ouest-Aveyron, on tente de jouer les rapprochements avec la Moselle luxembourgeoise.
Bien sûr, nous avons fait le repas de notre mariage en juin 2018 sur la Moselle, sur un de ces bateaux.
Sur le bateau Princesse Marie-Astrid.
Voilà.
Sur le bateau. Non, c'est vrai.
Exactement. Et on était là, sur la Moselle, et au menu, on a reçu du requin.
C'est vrai.
Alors, on s'est demandé.
Vous l'aviez commandé. Parce qu'en général, c'est plutôt.
Non.
De friture dont il s'agit.
Oui,
on vous a fait une blague, non?
Oui. On a beaucoup ri parce qu'on aurait été au Cap-Vert, ça aurait été tout à fait normal. Mais là, c'était au menu et c'était vraiment bien agréable.
Comme quoi, le pays est cosmopolite jusque dans l'assiette.
Tout à fait.
Je vous remercie Christian-Pierre Bénel et Rose-Marie Luce. Le bonheur était bien là aujourd'hui dans le studio de CFM Radio en votre compagnie. Christian-Pierre, merci. Merci Rose-Marie Luce. Si on veut s'intéresser à vos activités, vous avez un site internet?
Alors, je n'ai pas de site internet, mais j'ai une page Facebook. Par contre, si je peux me permettre de jeter une bouteille à la mer.
Allez-y.
Je recherche une piscine chauffée pour mes activités de Jansu, qui est une approche qui a été créée au Mexique. Et c'est de la relaxation et de la méditation dans l'eau. Donc, ce sont des soins aquatiques. Si quelqu'un entend ce message et voudrait me rencontrer, je suis disponible. Je serais très heureuse d'offrir la première séance de Jansu.
Okay.
Je suis la seule à le pratiquer dans la région.
L'appel est lancé. Je vous remercie encore une fois tous les deux. Et je vous dis à tous, chers auditeurs aussi, merci. Adi à tous les deux.
Adi.
Tchuss, bis bald. Alkop kebe.
Alkop kebe, merci.
Alkop kebe en occitan. À bientôt. Tchuss. Merci à tous.